Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarrote.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peu ou prou nous concerne tous. Nous allons parler d'une certaine manière, au plus près du quotidien, de la façon dont les patients et leurs familles vivent la maladie. Mon invité est la présidente de la maison d'accueil hospitalière La Pasquière à Montpellier. Annie Séquet-Blanc, merci de venir nous parler de ça à Divergence FM. Quelques mots pour vous présenter. Avec une formation de psychologue, vous avez passé le diplôme de santé publique qui a déterminé 20 ans de votre parcours dans ce domaine. Vous avez ainsi développé votre expertise dans l'évaluation des politiques de santé publique auprès de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'ONU-SIDA, ceci en Afrique, au Maghreb, en Amérique latine et en Europe. Vous avez ensuite bifurqué en travaillant notamment à Montpellier auprès d'André Vézinet, au cabinet, en chargé de la rédaction des discours et des éditoriaux. Ce goût pour l'écriture s'est traduit par un récit, Rhizome, l'Algérie au cœur, inspiré par votre vie, où il est question de familles d'enfants hospitalisés. Nous voilà donc dans le sujet que nous allons examiner avec vous. Mais d'abord, Annie Séquet-Blanc, racontez-nous votre Montpellier. Quels sont les lieux à Montpellier qui figurent ou pas sur les cartes postales que vous aimez particulièrement, auxquels vous êtes attachée?
Les vieilles rues.
Du centre.
Les vieilles rues du centre-ville, mais aussi le Pérou, l'Esplanade, Antigone. J'aime flâner et aussi les places de marché.
Voilà.
Places de marché, les halles, partout là où il y a de la vie.
Très bien. Alors, prolongement de cette question, quand vous recevez des amis de passage ou des parents, qu'est-ce que vous leur conseillez en faisant en quelque sorte le guide de l'office de tourisme à leur intention?
Ah, je fais très souvent ça parce que j'ai beaucoup, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, donc j'ai beaucoup d'amis étrangers
qui passent par ici.
Je les amène voir le Mikvé, par exemple, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, la chambre de commerce. Tous les lieux et puis les hôtels particuliers. On a cette chance que pendant la journée des patrimoines, on peut rentrer et les visiter. Mais il y a aussi, on peut très bien pousser quelques portes cochères et jeter un œil. J'ai une affection particulière pour le centre-ville, la Panacée, l'arrière du musée Fabre, etc.
Très bien. Et le Montpellier plus moderne, plus récent? Les nouveaux quartiers?
Ah, j'aime bien les nouveaux quartiers. Je vais au marché du Lez, bien évidemment. Le quartier de la nouvelle mairie que j'ai fréquenté pendant très longtemps. Marcher sur ses quais, il y a aussi une vie. Peut-être un peu moins nocturne, plus diurne. Nous, on avait cette chance entre midi et deux de pouvoir aller manger sur une terrasse, se promener. J'aime bien ce quartier aussi.
Et en revanche, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins à Montpellier, notamment un certain nombre de Montpelliérains sont un peu inquiets, en tout cas s'interrogent sur la croissance très forte qu'a connue la ville, croissance urbanistique, croissance démographique, changement d'échelle. Est-ce que ce phénomène, comment vous les vivez-vous?
Alors moi, je dois dire que je l'ai bien vécu parce que je suis arrivée en 1975, je descendais de ma Lozère natale. Il faut préciser que quand je suis arrivée en 75, en Lozère, il n'y avait pas de feu rouge.
Oui. Vous
voyez, donc ça a été quand même pour moi
un choc.
Et j'ai vu cette ville grandir, comme vous l'avez dit, mais aussi en même temps s'embellir, se moderniser, se tourner vers la jeunesse. Il ne faut pas oublier qu'un Montpelliérain sur cinq est étudiant, vers la recherche. Et comme je le redis, j'ai parcouru pas mal de pays. Et chaque fois que je dis « je suis de Montpellier », on me dit « oh là là, tu as de la chance, quelle belle ville !» Alors, tout ne me séduit pas. Je pense que par exemple, enfin, moi j'aimerais qu'on fasse encore plus, par exemple pour le social et en particulier pour les gens qui vivent dans la rue, en particulier les femmes qui vivent dans la rue. Il n'y a pas assez de places d'hébergement et ça je le dis très régulièrement à mon ami Michael Delafosse. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin.
Alors, je dis au passage, c'est un sujet qu'on va aborder, là, cette question de ce qu'on appelle, bon, le mot est un peu technocratique, le sans-abrisme, en tout cas les personnes, y compris des familles, y compris des jeunes enfants qui sont dans la rue. Très bien. Eh bien, on va maintenant passer au vif du sujet en parlant de votre engagement dans les maisons d'accueil hospitalières, à commencer par celle de Montpellier, que vous présidez, sauf erreur, depuis 1998. Alors, très simplement, quel est le rôle de cette structure et peut-être en quoi se différencie-t-elle d'autres formes d'accompagnement des malades et surtout de leurs familles ?
Alors la Pasquière a avant tout un rôle social, c'est-à-dire que c'est un lieu effectivement où on accueille, on héberge, mais aussi on accompagne, on soutient. J'ai coutume de dire que ce n'est pas un hôtel. C'est un lieu de vie, c'est un lieu chaleureux, un lieu résilient, où les familles qui sont dans l'angoisse d'une hospitalisation sont accompagnées, prises en charge. Nous avons par exemple des soins de bien-être dans cette maison, des ateliers de cuisine, des ateliers de yoga, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Et j'ai participé à l'appellation de maison d'accueil hospitalière, hein, puisque j'ai fait partie de la commission au niveau de la Fédération des maisons d'accueil hospitalières, qui compte 45 maisons en France maintenant. Le nom de maison est extrêmement important, parce qu'il faut que les gens, les familles, pardon, qui sont accueillies à la Pasquière, et dans les autres maisons aussi, se sentent comme chez eux. Et d'ailleurs, c'est le maître mot. On leur dit, ici, vous êtes chez vous.
Alors ça, c'est un peu les valeurs que vous portez, oui. L'ambition générale. Alors,
l'hospitalité, voilà. La solidarité, la bienveillance.
Voilà. D'ailleurs, je me disais en préparant l'émission que hospitalière et hospitalité, bien sûr, les deux mots sont très voisins.
Oui, et ça aussi, j'y tiens beaucoup, parce que l'hospitalité, contrairement à ce qu'on croit, en termes d'acception, ce n'est pas un critère individuel. L'hospitalité, c'est un critère social. C'est un critère qui est développé depuis un mot qu'on connaît depuis le Moyen-Âge, à l'époque où les mendiants, les vagabonds, les voyageurs recevaient l'hospitalité dans des lieux qu'on appelait des hospices. Et on a choisi ce nom d'hospitalière parce que voilà, ça fait référence à l'hospitalité d'une part et ça fait référence aussi au service hospitalier d'autre part. Voilà.
Alors, il faut dire où elle est cette maison.
Elle est située au 7 avenue du docteur Peset.
C'est la rue du cinéma Utopia.
Exactement.
Ça fera pour les,
exactement.
Comme pour donner un repère.
Nous sommes les voisins du cinéma Utopia.
C'est donc depuis l'origine, elle est installée là.
Oui, oui. Et l'origine, si vous me laissez dire deux mots sur cette origine. Donc, ce sont quatre femmes protestantes qui étaient visiteuses de prison et qui avaient créé un réseau de familles d'accueil. Mais très vite, le réseau a saturé. C'est-à-dire que les gens recevaient une fois, deux fois, trois fois des familles venant de...
Chez eux, à domicile.
Et du coup, elles ont été dépassées par le succès de leur réseau. Elles ont eu l'idée de faire ce lieu, cette maison, mais elles ne trouvaient pas de terrain. Et une de ces femmes, un médecin, a appris que ce terrain vague à l'époque, hein, je ne sais pas...
Ah oui, c'était pas construit. Oui.
C'était pas du tout construit. Appartenait à l'évêché. Elle a donc demandé à l'évêque du moment, est-ce que vous accepteriez que nous construisions une maison d'accueil pour les familles de personnes hospitalisées? Il a dit oui, à condition que dans votre conseil d'administration, toutes les confessions soient respectées, que ce soit, et c'est le cas depuis toujours, il y a une place pour chaque aumônerie hospitalière dans notre CA. Bien évidemment, c'est une association aconfessionnelle, mais nous avons gardé cette tradition, et puis aussi parce que les aumôneries parlent de la Pasquière aux patients. Souvent, ils disent aux familles qui sont dans le désarroi, qui ne savent pas où aller, vous pouvez aller à la Pasquière. Alors, pourquoi la Pasquière?
Ah oui, je voulais poser la question. Pourquoi
ce nom?
Eh
bien, parce que ce terrain, il y a beaucoup de Montpelliérains qui ne le savent pas, mais ce terrain était le lieu où, dans la liturgie catholique, vous savez, le jour de Pâques, on doit sortir, aller manger une omelette de préférence, etc. Et les Montpelliérains catholiques venaient manger leur pique-nique et leur omelette pascale sur ce terrain. Donc, les membres fondateurs l'ont appelé la Pasquière.
Donc, c'est la référence à Pâques. Donc,
à Pâques.
Coup, c'est ça.
Pâques, Pessa, le passage. Donc, j'ai coutume de dire que les familles qui sont là ne sont là que de passage.
Très bien. Alors, il faut dire, bon, quel type de personnes cette maison accueille, pour que ce soit plus précis.
Alors, les familles de personnes hospitalisées, bien évidemment, de malades hospitalisés, au CHU, à l'ICM, à Propara, dans les cliniques. Mais aussi, depuis 7 ans, nous accueillons des patients en HTNM, un acronyme qui veut dire hébergement temporaire non médicalisé. Pour faire simple, c'est du suivi ambulatoire.
Ambulatoire, c'est quand on est soigné dans la journée. Voilà.
Et c'est le médecin qui prescrit la Pasquière. C'est-à-dire le médecin prescrit un suivi pour son patient. D'ailleurs, c'est l'hôpital qui paye dans ce cas-là. Hein,
donc, il y a un accompagnement, parce que bon, quand on est ambulatoire, bon, généralement, on rentre chez soi en cours de journée.
Oui.
Donc là, c'est des gens pour des raisons diverses qui restent sur place.
Pour des raisons d'éloignement ou pour des raisons médicales, parce que le médecin craint un petit saignement ou quelque chose comme ça. Donc, il préfère garder son patient une à deux. Généralement, c'est une à deux nuits, hein. En général, post-opératoire ou post-examen. Et depuis l'année dernière, nous accueillons aussi des femmes parturiantes, c'est-à-dire enceintes, en HAD, hospitalisation à domicile. Ce sont des femmes qui ont une grossesse à risque et qui vivent à plus de 50 km d'une maternité de proximité.
Donc dans les derniers jours de la grossesse, je suppose.
Alors, la dernière qu'on a eue, elle est restée 2 mois.
Ah d'accord.
Oui. Parce que ces femmes-là, si elles n'étaient pas à la Pasquière, elles seraient hospitalisées au CHU. Donc vous imaginez l'encombrement des lits d'hôpital.
Et puis bon, les conditions d'accueil, bien sûr, qui sont plus douces, beaucoup plus confortables.
Douces, apaisées, chaleureuses. Je ne dis pas que l'hôpital ne soit pas chaleureux, mais l'hôpital reste l'hôpital.
Bien sûr. Alors, quel est le dispositif que vous avez installé, que cette maison comprend, le nombre de chambres, les équipements que la maison comporte?
Alors, il y a des parties communes et des parties individuelles. Les parties communes, ce sont la salle à manger, le salon et la cuisine. Et ça, nous y tenons beaucoup parce que ce sont les familles qui se préparent leur repas. Il y a des familles pour qui préparer un repas, quand on est dans l'angoisse d'une hospitalisation d'un proche, représente un stress supplémentaire. Et le fait d'être en groupe, cette commensalité, d'une certaine façon, permet aux gens de discuter, de se soutenir, de partager leur repas. Vous voyez, en ce moment, on a des gens de l'île de la Réunion, de Tunisie, du Maroc. Les gens partagent, ils préparent et se partagent entre eux. Ça, ce sont les parties communes.
Donc, c'est un aspect presque familial,
oui.
Ou en tout cas amical.
C'est ce que disent les familles.
Que la manière dont la maison est aménagée, pensée, et donc, on va en parler, dont l'accompagnement se fait au cours du séjour.
L'accompagnement se fait au cours du séjour. Les temps de repas sont essentiels. Nous avons même des bénévoles qui font des ateliers pâtisserie, des ateliers confiture, ateliers soupe en ce moment, hein, puisque c'est l'hiver. Les salariés déjeunent aussi avec les familles. C'est important que les familles sentent qu'elles sont soutenues et qu'à tout moment, on peut tout dire à la Pasquière. On peut pleurer, on peut être gay parce qu'on a une bonne nouvelle. Voilà, c'est un lieu où tout est, j'allais dire, compris, accepté.
Donc, ça signifie que les salariés, 7, si, mais
7
si,
salariés,
d'après ce que
oui.
j'ai vu, et une trentaine de bénévoles, on va en parler, ont une attention définitive particulière que les autres structures ne sont pas en mesure, pour diverses raisons, d'apporter dans les mêmes conditions, je dirais, de proximité, de suivi, d'attention. Mais,
bien sûr, souvent on nous a demandé est-ce qu'on avait par exemple un psychologue qui venait. J'allais dire on n'en a pas besoin parce que ce travail d'équipe, ce travail d'accompagnement, ce travail de justement d'accompagner vers une certaine résilience... permet aux familles de parler et, ou de ne pas parler. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui circule sur notre site où une bénévole dit quand ils ont envie de parler, je les laisse parler. Quand ils n'en ont pas envie, ça se sent. Et on les laisse aller dans leur chambre.
Cette souplesse, cette liberté dont disposent les résidents, qui fait partie aussi, je dirais, des éléments qui caractérisent la maison, oui. Ou les maisons hospitalières en général, j'imagine.
Les maisons hospitalières en général, parce qu'on parle beaucoup entre nous et on a tous conscience qu'il faut que nous ayons à la fois des règles de vie commune, hein, ça c'est normal, on ne fume pas dans les parties communes ni dans les chambres d'ailleurs. Voilà, mais... En même temps, il faut savoir aussi s'adapter, je crois, au cas par cas, parce que toutes les familles vivent de façon différente l'hospitalisation d'un proche. Ensuite, il y a les parties individuelles, c'est-à-dire les chambres. Il y a 40 chambres, 50 places. Nous avons une unité familiale.
Alors, 50 places, ça veut dire qu'on peut venir en couple,
oui.
Donc
oui, il y a des chambres doubles.
Voire en famille.
On a une unité familiale parce que moi-même, j'ai été touchée par la maladie d'un de mes neveux qui a eu la leucémie à l'âge de 2 ans et demi. Et j'ai pu constater, même si on s'occupe des autres enfants, quand il y a une fratrie, les dégâts que ça fait vers les autres enfants. Aussi, j'ai voulu et j'ai proposé à mon CA que nous fassions une unité familiale. Donc, il y a un salon avec un convertible, une chambre d'enfant et une chambre parentale. Ça fait que dans un même lieu, on peut recevoir les parents, les grands-parents, les enfants, puisqu'il y a deux lits dans la chambre d'enfant. Mais c'est vraiment comme dans une maison. La chambre d'enfant est décorée comme une chambre d'enfant, etc. Nous tenons aussi, je suis très, très pointilleuse sur la beauté du lieu.
J'ai regardé sur une vidéo, donc on voit que c'est soigné, que c'est lumineux. Il y a un jardin, une terrasse... Tout ce côté, bien sûr, agréable, qui fait partie des qualités que la maison propose.
Il le faut. Il le faut. Ce n'est pas parce qu'on fait du social qu'il faut négliger. Moi, je suis très, très attentive à la couleur, au fait que les chambres ne ressemblent en rien à une chambre d'hôpital. Le fait qu'il y ait de la déco, qu'on puisse... se sentir chez soi, sauf erreur de ma part, mais dans nos maisons, ça ne ressemble pas à une chambre hospitalière. Donc, les salles de bain, je tiens à ce qu'elles soient lumineuses, comme vous l'avez dit, bien carrelées, etc.
D'accord. Alors, parlons un peu notamment des bénévoles. Donc. Alors, ces bénévoles, donc une trentaine, sauf erreur, comment ça se passe? Quels sont leurs différents rôles? Vous l'avez évoqué. Alors, vous-même, comment peut-on être bénévole si vous souhaitez que l'équipe actuelle se renforce?
Oui, on a toujours besoin de bénévoles parce qu'il y a des renouvellements, il y a des gens qui vieillissent et qui ne peuvent plus venir à la Pasquière. Donc, nous, on pratique ce qu'on appelle le bénévolat de compétence, c'est-à-dire on ne dit pas aux gens « vous viendrez pour faire ceci ». On reçoit la personne qui se présente à la Pasquière, qui appelle, qui prend un rendez-vous, etc. Et on lui dit « qu'est-ce que vous aimeriez faire pour cette maison ? » ?»«
Qu'est-ce que vous pouvez apporter ?»«
Qu'est-ce que vous pouvez apporter ?» Donc, il y a effectivement des personnes qui souhaitent accueillir, c'est-à-dire réceptionner la personne, expliquer comment ça fonctionne, montrer la chambre, montrer les parties communes. Mais on a aussi des bénévoles pour le bricolage, le jardinage, le repassage et surtout les ateliers de bien-être. C'est-à-dire qu'on a une salle, enfin une cabine d'esthétique très, très bien équipée aussi, grâce à un mécène. Et on a pu aussi recruter des professionnels bénévoles pour faire ces séances de bien-être. Alors, il y a sophrologie, shiatsu, reiki, ah, oui. socio-esthétique, musicothérapie.
Enfin, ah, voilà. Une offre très diverse. Donc.
Très diverse. Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Et ce sont les bénévoles, vous voyez, qui sont à l'accueil ou les salariés qui incitent les familles, parce que vous comprenez bien qu'une famille, je prends un exemple, hein, qui a un enfant qui est hospitalisé en oncopédiatrie.
C'est maladie de cancer. Hein,
voilà. La maman, elle ne va pas vous dire « j'ai besoin d'une séance de socio-esthétique ».
Bien sûr.
Hein. Au contraire, même elle s'oublie complètement. Elle est repliée sur son angoisse et son stress, et on la comprend. Et ce sont nos bénévoles et les salariés qui disent « vous devriez prendre une heure pour vous, allez voir la socio-esthéticienne ». Et en général, quand les gens restent longtemps, d'eux-mêmes après, ils y retournent.
Bien sûr.
Voilà. J'ai une jolie histoire à ce sujet.
Allez, racontez-nous.
C'est une maman lausérienne, je l'ai dit, je suis lausérienne, donc j'attache beaucoup d'importance à mes...
Vos anciens...
Voilà.
Vos anciens.
Et on me dit, il y a une famille, un enfant de 16 ans qui a fait un AVC, etc. Bon, bref, une situation très dure. Les deux parents agriculteurs, et je prends un petit café avec eux, et je dis à la dame, mais pourquoi vous n'allez pas faire un petit soin de socio-esthétique, ça vous détendrait? Elle me répond, même le jour de mon mariage, je ne suis pas allée chez l'esthéticienne. Et je lui dis, raison de plus, elle y va, sous mon insistance, je dois le dire, et... Quand elle sort, elle me regarde, elle me montre son visage et elle me dit « Est-ce que vous pensez que je suis belle pour aller voir mon fils ?»
Ah,
et là,
d'accord.
Je me suis dit « Voilà,
c'est gagné là.
C'est gagné. »
C'est gagné. Très bien. Alors, un mot de la manière dont dans la maison est financée, là, comment ça se passe, selon les cas de figure différents que vous avez évoqués.
Alors, 98% de nos revenus, on va dire de nos recettes, sont liés à nos nuitées. 27% de 27 euros pardon la nuitée et le reste j'ai fait une erreur, c'est pas 98%, c'est 80% pour les nuitées, environ 10 à 15% de mécénat et le reste ce sont des subventions exceptionnelles des collectivités locales.
D'accord.
Voilà.
Donc ça coûte cette somme-là, qui est bien sûr très inférieure auprès d'un hôtel, et équivalente à une nuitée à l'hôpital, à peu près là, les 25 euros.
À une nuitée à l'hôpital, c'est la fourchette basse, c'est 1500 euros.
Oui.
Par exemple, un patient vient en HTNM, donc hébergement temporaire non médicalisé, l'hôpital nous rétribue 35 euros.
D'accord. Puisque là, c'est un cas de figure différent.
Oui, différent. Les familles payent 27 euros.
Donc, alors, on a indiqué que vous avez besoin de compléter ou de renouveler vos équipes de bénévoles. Et même chose pour les dons, là, c'est possible pour les particuliers.
Alors, nous sommes reconnus d'intérêt général. Donc, nous faisons un CERFA, un reçu fiscal. On fait régulièrement appel aux dons parce que la maison... est quasiment pleine, donc il faut rénover, repeindre, etc. Donc on a tout le temps besoin de faire des travaux, petits ou grands hein, d'ailleurs, parce que là on est parti pour faire des gros travaux de rénovation de salles de bain. On va ajouter aussi des salles de bain. Plus il y a de monde, plus il y a de besoin. Et puis, on fait appel à du mécénat d'entreprise aussi. Et on a besoin de dons, effectivement.
Alors, on part sur un autre sujet. Alors, il paraît que lors du premier confinement, à cause du Covid, bien entendu, en 2020, la maison a été conduite à jouer un rôle tout à fait particulier.
Oui. Le soir de l'annonce du président de la République, j'ai eu un grand moment de solitude en me disant on n'avait jamais fermé. Jamais fermé un seul jour.
Depuis 1978, c'est ça?
On n'avait jamais fermé. Donc le matin, je suis partie à la Pasquière, il y avait encore des familles hein, dans la maison. Et j'ai dit à mes salariés, écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Vous me dites oui, vous me dites non. Est-ce que vous acceptez... Bon, on va devoir dire aux familles qu'il faut qu'elles rentrent chez elles. On n'avait pas vocation à confiner des gens dans la maison. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on reçoive des soignants? Je vais appeler M. Le Ludec, qui était le directeur général du CHU de l'époque. Et si vous en êtes d'accord, on accueillera des soignants. Mais ça sera bénévole de votre part, c'est-à-dire...
Et c'est des soignants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux,
oui.
Qui étaient dans un peu dans une situation compliquée,
oui.
Mais qui avaient quand même besoin de se reposer, d'être
exactement.
Hébergés dans des bonnes conditions, à proximité de l'hôpital.
Alors, c'était des... on a reçu tout type de soignants, hein, des infirmiers, des médecins, des aides-soignants, les techniciens qui travaillaient derrière les machines qui faisaient respirer les gens qui avaient le Covid. Et tous ces gens-là ne pouvaient pas rentrer chez eux pour des raisons, soit parce qu'ils avaient un parent diabétique, un enfant diabétique, asthmatique, etc. Donc on avait des gens qui venaient dormir la nuit, mais aussi des gens qui venaient dormir le jour, prendre une douche. Enfin, la Pascale était devenue un peu un petit QG. On a eu 39 soignants en 2 mois et demi. Et je dois vous dire que le jour où... on leur a dit, le 15 juin, on a poussé jusqu'au 15 juin, on a fait un repas, on a essayé de faire un petit apéritif de départ. Il y avait des larmes, il y avait des yeux qui étaient mouillés parce qu'ils avaient conscience de, du fait que ça leur a permis de passer...
Ça leur fait du bien, oui.
Oui, moi, le jour de Pâques, je leur ai mis des œufs sur la table, par exemple, des œufs au chocolat, pour leur montrer. Il ne suffisait pas de les applaudir le soir, mais il fallait aussi les accompagner dans la journée, dans cet éloignement, parce qu'il y a une... Je me souviens d'une aide-soignante qui n'a pas vu ses enfants pendant 2 mois.
D'accord. Alors, le temps file. Donc, vous avez mis à profit l'expérience internationale que vous avez eue dans votre parcours professionnel, je l'ai évoqué, et ça vous a conduit de contribuer à la création de ce type de maison à l'étranger. Vous pouvez nous en dire un mot?
Oui.
Quelques mots.
Quelques mots. Donc les deux premières maisons, on les a faites à Ankara et à Istanbul, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, j'avais des contacts avec un médecin oncopédiatre. Et ensuite, on en a fait deux en Algérie, Annaba, anciennement Bonne, et Sétif. Sétif, la maison est accolée au centre anticancéreux. Ils ont fait un CAC, centre anticancéreux, et ils ont fait la maison qui viennent d'étendre, parce qu'il n'y avait pas... Je crois qu'ils avaient fait 40 places et ça ne suffisait pas. Eux, ils ont beaucoup de patienteux en ambulatoire. Et il faut dire aussi que chaque fois, nos amis viennent en stage à la Pasquière pour voir comment ça fonctionne, et tout ça bénévolement, bien sûr.
Bien sûr.
On en a fait deux au Maroc, une à Rabat qui s'appelle la Maison de l'Avenir et une à Marrakech qui est dans l'enceinte de l'hôpital. Et je suis en train d'aider à la création d'une maison en Martinique dédiée aux parents d'enfants cancéreux pour toute la Caraïbe, hein, pas que pour la Martinique, ça veut dire Sainte-Lucie, etc.
Très bien. Alors... d'autres questions qu'on avait évoquées en préparant l'émission pourraient venir, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de les mettre dans la conversation entre vous et moi. Donc, je rappelle que vous avez besoin de bénévoles qui apportent leur savoir-faire, leurs compétences et bien sûr leur engagement. Donc, prendre contact avec la Pascal, hein, le téléphone ou par le site Internet. Et également, les dons de particuliers sont les bienvenus pour compléter les financements que vous avez évoqués. Merci beaucoup, Annelies et Kevin.
Merci à vous.
Et bon
merci
vent.
À vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saroque.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.